C'est un plaisir de vous retrouver. On s'était vu en ligne il y a quelques mois. Et voilà, maintenant de vous retrouver, c'est quand même impressionnant parce que nous, à Noisy, on n'a pas repris encore les cultes en présentiel. Et de voir comme ça des gens séparés les uns des autres et masqués. J'ai pas trop l'habitude, mais c'est ce qu'il faut. Hein, c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, félicitations, j'avais vu que c'était très bien organisé. Alors, avant de rentrer juste dans le vif du sujet, quelques nouvelles. Donc, voilà, je ne viens pas souvent en famille, mais aujourd'hui, je suis venu avec Jeanne, avec Samuel et Lisa, nos enfants. Et donc, en fait, mon ministère avec France Évangélisation consiste en gros en trois pôles principaux. Donc, il y a la prédication de l'Évangile et la formation au témoignage dans différentes églises. Il y a une partie aussi d'aumônerie de prison avec le centre pénitentiaire de Meaux. Et puis une partie où je produis des petites vidéos sur Internet pour défendre la foi chrétienne. Donc j'ai une chaîne qui s'appelle Thomas le Pasteur. Et je réponds aussi aux commentaires du site comprendredieu.com. Et donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Avant d'attaquer... d'attaquer ce texte donc de Malachie, chapitre 2, les versets 1 à 9. Et donc, vous avez déjà eu une prédication sur Malachie, chapitre 1, que j'ai pu écouter en ligne. Et d'ailleurs, quand j'ai écouté cette prédication, je me suis rendu compte de la chance que vous avez d'avoir un tel prédicateur dans votre église. Hein, j'étais vraiment impressionné par la qualité de la prédication de Philippe. Alors, je ne sais pas s'il prêche tous les dimanches comme ça, mais en tout cas, cette fois-là, chapeau, c'est un modèle du genre, quoi. Mais j'ai confiance que c'est pas la seule fois qu'il prêche avec cette qualité. Comme c'est enregistré, je fais attention. Non, mais c'est sincère. Alors, revenons à notre texte. Scandale dans l'Église catholique, mais aussi dans des églises évangéliques. En février 2019, même les journaux français ont reporté les révélations d'abus sexuels au sein de la Southern Baptist Convention, la plus grande union d'églises aux États-Unis. Chrétiens traînés dans la boue, oui, mais chrétiens qui ont méprisé la loi de Dieu. Et c'est un petit peu ce dont nous parle le texte que l'on va lire. Pas les chrétiens, puisqu'à l'époque, Christ n'était pas encore venu, mais le peuple de Dieu qui méprise la loi de Dieu, notamment les prêtres, et donc en punition, en châtiment, eh bien, ils seront aussi méprisés. Donc le prophète Malachie adresse des avertissements très sévères aux prêtres de son époque. Mais si vous lisez Malachie 1 et vous avez une prédication là-dessus, vous voyez que ces reproches se font dans le cadre de l'amour de Dieu. En fait, Dieu mérite le plus grand respect et les prêtres qui l'ont méprisé vont être méprisés en retour. Nous verrons cet après-midi trois rôles. Le rôle des prêtres, et c'est ce qui va nous occuper notre plus grande partie. Ensuite, le rôle de l'Alliance, et aussi de la punition qui est liée à cette alliance, et enfin notre rôle. Donc nous pouvons voir que les reproches sont très sévères, nous allons relire encore ce texte, et cela m'amène quand même à deux remarques. La première, c'est que l'amour n'empêche pas les reproches. Le chapitre 1 s'ouvre avec cette déclaration d'amour de Dieu pour son peuple, et juste après viennent les reproches. L'amour n'empêche pas les reproches. L'amour, ce n'est pas le laxisme, ce n'est pas laisser tout faire. Dieu n'est pas le papa gâteau qui accepte tout. Dieu, au contraire, se présente comme un juge sévère, un juge qui demande un attachement total. Et cela nous permet de nous poser une première question. Quelle image avons-nous de Dieu? Quelle représentation avons-nous de Dieu? Oui, il nous aime. Oui, il est un Dieu de grâce. Mais oui, il est saint. C'est-à-dire totalement digne de recevoir un culte. Il est totalement différent de nous et nous lui devons le plus grand respect. Et la deuxième remarque, nous y reviendrons par la suite, donc je ne m'étends pas dessus, c'est que les reproches se font dans le cadre de l'amour pour le bien du peuple. Alors là, nous étudions aujourd'hui les versets 1 à 9 du deuxième chapitre, qui sont en fait la deuxième partie du deuxième oracle qui concerne les prêtres. Juste avant, le prophète dénonce le mépris dans le culte qui est rendu à l'Éternel. Si vous lisez le chapitre 1, la deuxième partie, c'est de ça qu'il parle. Et maintenant, c'est surtout concernant le rôle d'enseignement des prêtres c'est le rôle d'enseignement des prêtres qui est critiqué maintenant. Alors je relis Malachie chapitre 2, les versets 1 à 9. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis, l'on vous emportera au dehors avec eux. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je lui ai donné pour qu'il me révère, et il m'a révéré, il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à l'enseignement, à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors de mon côté, je vous ai livré au mépris, au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que je vous ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Donc ça, c'est dans la version Semeur. D'abord, le rôle du prêtre. Quel était donc le rôle du prêtre? Et au travers des reproches de ce texte ou des paroles positives, nous pourrons un petit peu voir ce qui est attendu du prêtre. Et je dis tout de suite, soyons attentifs, parce que ce qui est dit des prêtres ici est aussi valable pour nous. Ce sera la troisième partie de la prédication. D'abord, il faut écouter. Le verset 2, il y a une exhortation à écouter. Les prêtres, d'ailleurs, comme l'ensemble du peuple de Dieu, doivent écouter Dieu. La confession de foi juive, Deutéronome chapitre 6, verset 4, dit « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Dieu, l'Éternel est un ou il est le seul Dieu. » Donc ça, c'est la confession de foi juive qui commence par « Écoute, Israël ». Il s'agit, bien sûr, d'écouter dans ce texte, premièrement, l'avertissement du Seigneur, mais de manière générale, les prêtres doivent se mettre à l'écoute du Seigneur. Un prêtre ne doit pas premièrement parler de ses idées ou de ses exploits, il doit transmettre la parole de Dieu et donc se mettre à son écoute, à l'écoute et à l'étude de cette parole. Alors il m'est déjà arrivé de vouloir dire une parole plutôt dans le cadre d'une discussion, et puis avant de la dire, je me suis dit, mais est-ce que cette parole que j'ai envie de dire est vraiment une parole qui vient de Dieu? Est-ce que Dieu serait honoré par là? Est-ce que c'est conforme à sa volonté? Et puis, comme je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, je me suis tu. L'importance donc d'écouter, de se mettre à l'écoute du Seigneur avant de vouloir enseigner les autres. Le verset 2 nous dit aussi, par le reproche, qu'il faut que les prêtres prennent à cœur l'avertissement. Dieu mérite toute gloire et nous devons pas faire n'importe quoi. Nous devons prendre à cœur ce que nous enseigne le Seigneur. Prendre à cœur d'honorer le Seigneur, c'est ce qui était question verset 2. Et cela, nous avons des échos dans le Nouveau Testament, ce verset de 1 Corinthiens 10, 31. « Quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre but, c'est de rendre gloire à Dieu et nous devons prendre cela à cœur d'honorer Dieu. On peut se poser les questions suivantes. Est-ce que cet achat, ce regard, cette activité, cette parole honore Dieu? Le verset 5 nous parle de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect, c'est la soumission, c'est l'obéissance à Dieu. Oui, Dieu est un Dieu de grâce, mais cela ne veut pas dire que nous ne lui devons pas le plus grand respect. Et dans la première partie de cet oracle, dans Malachie chapitre 1, verset 8, il est dit « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées. » Donc là, le prophète fait des reproches au peuple en disant « Vous n'osez même pas offrir ce cadeau-là à votre gouverneur, et pourtant, vous l'offrez à Dieu. » Parce que c'était la négligence du peuple, au lieu d'offrir de beaux sacrifices, ils offraient les animaux qui avaient des défauts, un peu comme pour s'en débarrasser. Et ça m'a interpellé cette remarque. Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ? Est-ce que finalement nous ne montrons pas plus de respect pour nos gouverneurs que pour Dieu ? Est-ce que nous prenons pas plus notre patron au sérieux que notre Dieu ? Quand notre patron nous dit quelque chose, eh bien on s'exécute. On va pas discuter, est-ce qu'il a vraiment dit ça ? Est-ce que je dois le faire maintenant ? Est-ce que c'est pas pour les autres ? Non, je vais le faire. Et je me dis, est-ce que nous avons aussi cette crainte de Dieu ? Est-ce que nous respectons Dieu autant et même plus que nous respectons nos autorités politiques ou notre patron ? La crainte de Dieu, vous allez peut-être me dire, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'Ancien Testament, oui, mais également dans le Nouveau Testament. L'alliance en Jésus-Christ, cette alliance de l'Esprit, n'empêche pas ce profond respect du Seigneur. Par exemple, nous avons ce texte en Luc chapitre 12, versets 4 et 5. « Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre ? Je vais vous le dire, c'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. C'est l'Éternel que nous devons craindre. Le Seigneur parle encore de la crainte de Dieu dans la Nouvelle Alliance. 2 Corinthiens 7, 1, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et Philippiens 2, chapitre 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » La crainte de Dieu fait partie de la vie du chrétien encore aujourd'hui. La crainte de Dieu, c'est ce respect profond, c'est cette soumission totale à Dieu. Et en fait, la crainte de Dieu est libératrice parce qu'elle nous délivre des autres craintes. Si je crains Dieu et je cherche à plaire à Dieu seul, eh bien du coup je suis libéré de la crainte du regard des autres. Et cela je l'ai réalisé il y a pas longtemps, que finalement la crainte de Dieu, l'abandon total à Dieu, avoir comme seul vrai Dieu l'Éternel, c'est quelque chose qui libère aussi de l'esclavage, de toute autre crainte que nous pourrions avoir. Et dans ma vie personnelle, j'ai remarqué que je fonctionnais beaucoup par la crainte du regard des autres. Et en fait, j'apprends, je suis encore à l'école, à craindre plus ce que Dieu veut, craindre l'Éternel plus que les autres. Et le fait de se concentrer sur Dieu nous libère aussi de la crainte des autres. On avance un petit peu dans le texte, le verset 6, donc il est dit que le prêtre doit proclamer la vérité. Le rôle du prêtre est donc d'interpréter et d'enseigner le peuple, comme cela nous est dit par exemple dans Deutéronome 33:10, c'est le rôle des prêtres. Ils doivent parler avec justice. Le prêtre doit apporter un enseignement, donc juste, il ne doit pas déformer les propos de la Bible, il ne doit pas courber le sens d'un texte pour le faire coller à ses préférences. Et je trouve que cette dimension, pour nous aujourd'hui, nécessite un effort, puisque j'aime bien cette phrase, la Bible a été écrite pour nous, mais pas à nous. Donc nous avons tout ce travail d'exégèse, d'interprétation à faire pour être fidèle au texte comme il a été transmis à ses premiers auditeurs et donc comprendre comment nous pouvons l'appliquer pour nous. Il s'agit aussi de marcher avec Dieu dans la droiture et dans la paix, au verset 6. En fait, la vie du prêtre est aussi un message, pas seulement son enseignement. Il doit marcher avec Dieu, il met en pratique la parole qu'il enseigne, il montre l'exemple. Et je ne sais pas si vous pensez à des personnes qui vous ont marqué dans votre vie spirituelle. Eh bien souvent, en tout cas c'est mon cas, quand je repense à un ancien pasteur dans l'église de Colmar où j'ai grandi, eh bien je me souviens plus de sa manière de vivre, de son comportement, de son attitude, que de ses enseignements. Et là, il s'agit que le prêtre marche avec le Seigneur. Il ne doit pas seulement être un bon enseignant, il doit être un bon exemple de l'enseignement qu'il donne. Comme le dit aussi le Nouveau Testament, hein, Hébreux 13, 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Donc, il y a ce rôle aussi d'exemplarité pour que d'autres puissent imiter. Et je me pose une question, est-ce que les gens peuvent m'imiter ? Est-ce que j'oserais dire comme l'apôtre Paul, qui le dit à plusieurs reprises d'ailleurs, dans plusieurs lettres, « Soyez mes imitateurs ». Eh bien, nous devons, selon ce que dit Hébreux, être des modèles pour les plus jeunes. Est-ce que les enfants de l'école du dimanche, est-ce que nos amis peuvent prendre exemple sur nous ? Verset 6, il est question de détourner beaucoup d'hommes du mal. Eh bien, comment faire cela ? Donc, il y a par l'enseignement, en les guidant sur la voie juste, mais c'était aussi dans le rôle de sacrificateur. Ils pouvaient donc offrir des sacrifices pour le pardon des péchés des gens. Donc, ce double rôle leur permettait de détourner beaucoup d'hommes du mal. Et aujourd'hui, nous savons que ce rôle d'expiation des péchés est accompli par Jésus-Christ, qui est, lui, la victime expiatoire pour nos péchés, selon Romains 3, 25. Mais nous pouvons présenter cette solution pour détourner beaucoup d'hommes du mal. Verset 7, nous avançons, le prêtre doit connaître la loi. Donc bien sûr, son rôle d'enseignant nécessite qu'il connaisse la loi de Dieu. Et je me rends compte combien c'est important de connaître le message que nous voulons transmettre autour de nous. Par exemple, dans le cadre de l'évangélisation, eh bien, parfois, il y a des gens avec qui nous discutons qui peuvent nous poser des colles. Alors que des fois, ce sont même des fondamentaux, on ne trouve pas les réponses. Souvent, dans nos discussions avec des musulmans, ils vont nous poser cette question. Mais si Jésus est Dieu, il prie. Alors, il prie qui ? Il prie lui-même. Et là, on ne sait plus répondre. Alors que ce sont les basiques. C'est la doctrine de la Trinité qui explique ça. Jésus est donc Dieu le Fils, venu sur la terre. Mais Dieu, il continue d'être en relation avec Dieu le Père. Et parfois, on dit, oui, mais Jésus n'a pas affirmé qu'il était Dieu. Puis on est là, on ne sait plus. Mais non, ce sont les basiques. Il faut connaître notre parole. Et parfois, on a presque l'impression que nos contradicteurs, ils en savent plus que nous. Et ce n'est pas normal. Nous devons, si nous voulons partager, si nous voulons être des témoins, nous devons connaître la Bible que nous voulons diffuser autour de nous. Et bon, quand je dis ça, je reconnais que moi-même, je dois toujours étudier, toujours plus connaître. Avec ces petits exemples un peu humoristiques, je ne veux pas du tout me moquer de ceux qui ne connaissent pas les solutions, parce que moi-même, parfois, je suis coincé. Et donc, nous devons tous continuer d'apprendre et connaître les choses. Et puis, nous n'avons peut-être pas aussi eu tous l'occasion d'approfondir tous les thèmes. Et donc, c'est toute notre vie que nous devons nous attacher à cette tâche de la connaissance de la Bible. Le prêtre doit aussi instruire, c'est ce que nous voyons au verset 7. Il partage la connaissance avec le peuple, il répond aux questions, il conseille. Et le verset 7 nous dit aussi que le prêtre est un messager de l'Éternel. Alors là, il y a peut-être un petit jeu de mots avec le nom Malachi, qui veut dire « mon messager ». C'est-à-dire, c'est celui qui est envoyé pour parler au peuple. Il vit avec le peuple, le messager. Il n'est pas seulement celui qui enseigne de l'extérieur, le messager est aussi celui qui enseigne de l'intérieur, avec les gens, il vit avec les gens. Il n'est pas qu'un technicien de la parole, il montre Dieu au peuple par sa manière de vivre. Enfin, c'est pas tout à fait la fin, mais il applique la loi, on le voit au verset 8 et 9. Le prêtre doit obéir, il doit se conformer, avoir une vie qui démontre son enseignement. Comme le dira aussi par la suite Pierre, dans 1 Pierre 4, pour les responsables de l'Église, ils disent donc qu'ils doivent être des modèles du troupeau, pas seulement des prédicateurs, des enseignants, des techniciens de la parole, mais des modèles dans leur manière de vivre. Et récemment, j'ai pu défendre cet argument, par exemple, de l'existence de Dieu, qu'il y a une cause première à l'univers. Et c'est beau de dire que Dieu est la cause de toute chose. Mais est-ce que je vis comme si tout venait de Dieu ? Hein, c'est une chose de le dire et c'est une chose de le vivre. Et donc, là, cette exhortation nous montre que le prêtre applique la loi. Il ne fait pas que l'enseigner, ce qu'il dit, il doit le vivre. Il doit utiliser correctement la loi, au verset 8, pour ne pas faire tomber. Et là, je trouve que c'est extrêmement triste, ce reproche, qu'on reproche aux prêtres d'avoir même fait tomber le peuple par leur enseignement. Alors, comment ils ont pu faire tomber le peuple par leur enseignement ? Eh bien, ils ont sans doute, et on le voit au chapitre 1, laissé passer un certain nombre de choses, alors qu'ils auraient dû dire stop. Ils ont laissé faire les sacrifices de mauvaise qualité. Ils ont accepté les brebis qui avaient des défauts au lieu de les rejeter. Ça peut être une chose qui fait qu'ils ont fait tomber les gens. Peut-être qu'ils ont aussi caché certaines vérités ou indiqué de fausses règles ou utilisé frauduleusement la parole de Dieu en faisant des prétextes. Et je me dis, quelle responsabilité pour l'enseignant de ne pas faire tomber les gens par l'enseignement. Ceci nécessite une application sérieuse de l'étude de la parole. Plusieurs faux enseignements peuvent faire tomber les gens, encore aujourd'hui. On pourrait parler de l'évangile qui serait qu'une libération sociale. Et à l'inverse, on pourrait parler d'un évangile qui n'a aucun impact social. On pourrait parler de l'évangile des œuvres, on est sauvé par les œuvres, ça fait tomber les gens. Mais à l'inverse, il y a peut-être l'enseignement de la grâce à bon marché, comme l'appelait Dietrich Bonhoeffer, qui peut aussi faire tomber les gens, en disant que de toute façon, le Seigneur nous accepte, on accepterait le pardon sans accepter la repentance qui va avec. Il y a l'évangile centré sur soi, l'évangile du bien-être, qui peut faire tomber des gens. Alors que l'évangile a pour centre non pas soi-même, mais la gloire de Dieu. Il y a l'évangile de la prospérité qui peut aussi faire tomber les gens, qui consiste à dire que si nous approchons de Dieu, nous serons bénis, alors que l'inverse est plutôt l'évangile de la simplicité. Plusieurs faux enseignements peuvent faire tomber le peuple. Et enfin, nous voyons au verset 9 que le prêtre doit se montrer impartial. Les Lévites avaient aussi le pouvoir d'exercer des jugements, selon plusieurs textes, notamment Deutéronome 17, les versets 8 à 11. Et donc, ils devaient le faire sans favoritisme, ne pas préférer les riches aux pauvres. Et je trouve que dans le contexte multiculturel de la région parisienne, de nos églises, cette exhortation a aussi une importance. Ne pas favoriser une culture par rapport à une autre. Et l'apôtre Jacques reprend aussi cette exhortation, Jacques chapitre 2, les versets 1 à 5, sur le favoritisme. Et il met en garde les chrétiens de ne pas favoriser le riche sur le pauvre. Alors maintenant que nous avons vu le rôle des prêtres, nous allons voir finalement le rôle de l'alliance et nous allons voir au sein de ce rôle de l'alliance le rôle de la punition. Il nous est parlé au verset 8 de cette expression peut-être un petit peu curieuse pour certains, l'alliance avec Lévi. De quoi s'agit-il ? En fait, Lévi, donc c'était un descendant de Jacob, et donc ses descendants ont donné la tribu des Lévites. Et Dieu avait choisi Lévi, on le voit en Deutéronome 33, 10, pour, et ses descendants, pour le service du temple. On le voit, Nombre 3, 12, hein, « Voici, j'ai choisi les Lévites au milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés des mères israélites, ils m'appartiennent donc. » Et nous voyons qu'ils sont consacrés au service du temple, et en échange, ils ont droit aux dîmes, aux offrandes et à certaines parties des sacrifices. On le voit en Nombre 18, le verset 8 et les versets 19 à 21. Et parmi les Lévites, il y a un sous-groupe, ce sont les descendants de Aaron qui, eux, ont le rôle de sacrificateurs, de prêtres. Donc nous avons les Lévites qui s'occupent de manière générale de tout le service du temple, et au sein de ce groupe, il y a les descendants d'Aaron qui ont le rôle de sacrificateurs, de prêtres, donc ceux qui opèrent les sacrifices. Et il y a une alliance particulière entre les descendants de Lévi et Dieu. Une alliance particulière. Le terme d'alliance n'a pas forcément très bonne presse aujourd'hui, puisque l'argument sans engagement est un argument de vente. Vous pouvez le prendre, c'est sans engagement. Les forfaits de téléphone, c'est sans engagement. Mais Dieu ne raisonne pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime et il tient parole. Il s'engage lui-même et il attend de nous aussi un engagement. Il veut une alliance. Mais l'homme d'aujourd'hui aime être libre et se définir par soi-même. Nous le voyons déjà depuis le Jardin d'Éden. Et en faisant ça, en fait, il s'enferme. Il s'enferme, par exemple, dans le succès. On doit toujours faire plus pour exister. Mais que se passe-t-il si on échoue ? La dépression. On s'enferme dans le regard des autres. On veut plaire. On fait tout pour satisfaire les autres, pour obtenir d'eux l'approbation. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas ? Eh bien, on perd notre valeur. Que se passe-t-il si les autres nous poussent à aller plus loin dans des directions qui ne sont pas bonnes ? Si nous sommes esclaves de leur regard, eh bien, nous allons nous détruire. Nous pouvons nous enfermer en nous définissant par l'éducation de nos enfants. Mais qu'arrive-t-il si l'un d'eux dérape ? Notre vie est-elle gâchée pour autant ? En fait, en voulant se définir par soi-même, en voulant être hors de toute alliance, eh bien, on se retrouve prisonnier de notre succès, de nous-mêmes, du regard des autres. Et seul Dieu et son alliance qui tient la route, eh bien, permet de nous libérer. Pourquoi ? Parce que cette alliance ne dépend pas de nos mérites, mais de la grâce de Dieu. Donc cela nous libère. Toute autre manière de se définir va dépendre de nos mérites, mais l'alliance que Dieu propose repose sur sa grâce. Ayant brisé cette alliance, Dieu expose donc les prêtres au jugement, au châtiment. Et la punition est sévère. Verset 3, « Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes, et puis l'on vous emportera au dehors avec eux. » On n'a pas l'habitude de lire ça dans la Bible. Hein. « Jeter à la figure les excréments. » En fait, selon la loi, Exode 29, 14, ce qui restait des sacrifices comme les entrailles, les excréments, la peau et parfois même la viande, devaient être emportés au loin et détruits. Et c'est un peu ce qui va arriver aux prêtres. C'est ce que l'Éternel dit. Eh ben, ils vont être considérés impurs comme les excréments et ils seront mis à part, ils seront démis de leur fonction. On va donc les mépriser. Ils vont être publiquement disgraciés, c'est aussi ce que nous dit le verset 9. Donc c'est une punition qui est très sévère, mais qui est méritée. Dieu rend mépris pour mépris. C'était déjà le cas dans 1 Samuel 2, les versets 29 et 30. Dieu rend mépris au mépris. Mais la punition, verset 4, est pour le bien, pour la continuité de l'alliance. Elle est là, donc verset 4, je vous relis. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. La punition de Dieu est là pour la restauration, pour le maintien de l'alliance. Plusieurs versets vont dans ce sens dans l'enseignement biblique. Proverbe 3, versets 11 et 12. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Ou encore Ézéchiel 18, 23. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Voilà le but de l'Éternel, c'est que le châtiment qu'il envoie soit là pour la repentance et pour la vie du peuple. Donc nous avons vu le rôle des prêtres, le rôle de l'Alliance et maintenant notre rôle. Finalement, en quoi tout cela nous concerne? Eh bien, nous sommes concernés par ces enseignements puisque nous sommes tous prêtres. Selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, dans la Nouvelle Alliance, nous avons ce mandat d'être une nation de prêtres. Je vous lis ce verset. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Alors, en quoi consiste notre rôle de prêtre? Eh bien, à adresser des louanges à Dieu, des œuvres de bienfaisance et des offrandes financières, selon Hébreux 13, 15 et 16 et Philippiens 4, 18, je vous lis ces versets. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir, et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tel sacrifice que l'Éternel prend plaisir. Donc la confession du nom de Dieu et les œuvres bonnes sont considérées comme des œuvres des prêtres. Le langage de la prêtrise est utilisé ici, il est question de sacrifice. Et Philippiens 4, 18, « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » L'offrande financière, donc là pour le soutien de l'apôtre Paul, est considérée comme l'œuvre, une œuvre cultuelle, puisque c'est donc un parfum de bonne odeur, un sacrifice. Là, nous retrouvons encore le langage de la prêtrise, le langage du service rendu à Dieu. Mais nous sommes aussi prêtres dans notre rôle d'intercesseur pour le monde. 1 Timothée chapitre 2, verset 1, nous exhorte à prier pour tous les hommes. Nous avons ce rôle de prêtre, d'être des intercesseurs pour le monde. Et puis, finalement, nous pouvons aussi voir que nous avons tous des responsabilités de leader spirituel, déjà pour notre propre famille, parce que Deutéronome 6, verset 7, nous dit que les parents ont pour rôle d'être des enseignants pour leurs enfants. Donc, tout ce que nous avons lu sur le rôle de l'enseignant est quelque chose qui doit aussi nous concerner dans notre rôle d'enseignant, ne serait-ce que pour nos enfants, mais également pour les autres membres de la communauté, puisque beaucoup de versets dans le Nouveau Testament nous disent que nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres. Et donc, si nous devons le faire, nous devons aussi respecter ces injonctions de le faire dans la vérité, dans la justice, de montrer l'exemple, enfin, tout ce que nous avons vu pour les prêtres dans Malachie. Et enfin, nous avons une responsabilité de leader spirituel pour le monde. Nous sommes appelés, selon Philippiens 2, 14 et 15, à porter la parole de vérité au monde. Et donc, si nous devons être porteurs de la parole de vérité, nous devons respecter tout ce qui concerne ces injonctions sur le rôle de l'enseignant, celui qui va donc porter la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous avons vu, ça nous concerne aussi. Alors, pour conclure, soyons des messagers de l'Éternel. Ayons à cœur la gloire de Dieu. Reprenons conscience de la crainte que nous devons avoir par rapport à Dieu, de ce respect profond, et que notre manière de vivre et nos paroles montrent quelque chose de Dieu au monde qui nous entoure. Nous avons un rôle spécial à jouer pour le monde qui nous entoure. Est-ce que nous allons honorer ce rôle? Est-ce que nous allons le prendre au sérieux? Le mépris était le châtiment de Dieu pour la conséquence de la négligence des prêtres. Ne tombons pas dans les mêmes travers. L'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin du mépris. Au contraire, nous devons être là pour être des lumières. Et ne recevons pas ce châtiment du Seigneur qui consiste à être méprisé, car nous l'avons méprisé. Mais prenons à cœur la gloire de Dieu et vivons dans la crainte de Dieu. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ce texte qui nous interpelle à vivre d'une manière conséquente notre rôle de prêtre, notre rôle d'enseignant que tu nous as confié dans différents cercles de responsabilité que tu nous as donnés. Et Seigneur, je veux te demander pardon quand j'ai été trop négligent, quand j'ai plus de respect pour mes employeurs, mes patrons, plus que toi-même, alors que c'est toi le Créateur, le Maître de l'univers. Pardon, Seigneur, quand j'ai recherché plutôt ma propre gloire plutôt qu'avoir à cœur de t'honorer toi-même. Pardon, Seigneur, quand j'ai été négligent dans l'étude de la parole et que je n'ai pas pu être un bon enseignant pour les gens qui avaient besoin de réponses autour de moi. Seigneur, je te demande pardon pour ça et je veux prendre au sérieux cet appel d'être un prêtre de cette nouvelle alliance pour t'honorer. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie parce que tu nous as aussi placés dans une communauté où nous pouvons nous entraider les uns les autres à vivre de manière digne de notre appel. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous encourager, nous pouvons continuer à progresser. Merci parce que nous pouvons nous mettre à ton école et nous pouvons repartir sur de bonnes bases. Seigneur, reçois toute notre louange, toute notre adoration. Reçois, Seigneur, notre bonne conduite. Reçois nos offrandes, reçois nos paroles de louange comme un acte de prêtrise qui t'est dû. Que chaque jour, tu nous permettes de marcher dans l'obéissance, à chaque instant, Seigneur, que nous puissions rechercher ta gloire et ton honneur. Amen.